Matthieu chapitre 18. En cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus disant : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme un petit enfant, celui-là est plus grand, est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu un haut cou, une meule d'âne, et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu, que vous en semble. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse. Nous lirons également dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du début. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. Et il leur dit cette parabole, disant : Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert, et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules bien joyeux, et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous venons de lire deux paraboles concernant des brebis. Elles peuvent paraître similaires, mais elles sont inscrites dans des contextes totalement différents. Dans le premier contexte, en Matthieu 18, le Seigneur parle des petits-enfants. Il parle à ses disciples. Il parle du principe du royaume des cieux. En Luc, il parle à des pécheurs, des gens qui ont besoin de repentance. Dans Matthieu 18, nous voyons là les disciples qui discutent pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. Ça, c'est l'orgueil naturel de l'homme. Parmi les disciples même du Seigneur Jésus, parmi ceux qui le suivent depuis un certain temps dans le chemin, parmi ceux qui ont été témoins de ce que le Seigneur a enseigné et aussi de ce qu'il a montré par ses actes, celui qui a dit et qui a montré clairement qu'il était débonnaire et humble de cœur. Et voilà ces disciples, tels que nous sommes aussi des disciples, c'est-à-dire des gens qui acceptent d'être enseignés du Seigneur, des gens qui acceptent d'être soumis au Seigneur. Eh bien, dans certains cas, voilà, nous avons nos pensées occupées de nous-mêmes, comme ici, les disciples, à savoir qui est le plus grand parmi eux, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. La parole est très précise. Qui est plus grand dans le royaume des cieux ? Le royaume des cieux, c'est une expression qui veut dire le domaine où on se soumet à Dieu. Le domaine où on se soumet au Seigneur Jésus. Alors, qui est le plus grand parmi ceux qui se soumettent ? Le Seigneur va les enseigner. Comment ? Le Seigneur parle et enseigne toujours de manière très claire et très pratique. Et nous voyons ici, Jésus ayant appelé près de lui un petit enfant. C'est beau. Et on trouve dans l'Évangile aussi le Seigneur qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants. » Le Seigneur aime les enfants. Et ici, pourquoi utilise-t-il un enfant ? Il le place parmi eux, au milieu d'eux. Et il prend cet enfant comme exemple d'humilité. Il dit, vous les disciples, vous croyez être quelqu'un ? Vous croyez avoir quelque importance ? Et il leur dit, voyez cet enfant que je place au milieu de vous, eh bien, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est aussi un principe divin. Quiconque s'abaisse sera élevé par Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé par Dieu. Encore ce principe, nous le trouvons dans un autre verset qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il donne la grâce aux humbles ». Il faut s'approcher comme des petits-enfants, c'est-à-dire sans arrière-pensée d'obtenir un gain personnel. Et c'est un principe d'humilité. Et puis le Seigneur va continuer. « Quiconque reçoit un seul de ces petits-enfants tel que celui-ci en mon nom me reçoit. » On voit jusqu'où le Seigneur va. Il s'identifie, il s'associe à ceux qui sont humbles. Si vous recevez un petit enfant tel que celui-ci, c'est comme si vous me receviez moi-même, moi. Dieu ne s'associe pas aux pensées des disciples quand ils discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Le Seigneur ne s'associe pas à l'orgueil de l'homme, mais le Seigneur s'associe à ses petits-enfants. C'est très joli. Le Seigneur s'associe à ses petits-enfants, à l'état d'esprit de ses petits-enfants. Et ensuite, on va dire dans la foulée, le Seigneur va exprimer quelque chose qui est très important concernant les petits-enfants. Il leur dit, il parle de quiconque est une occasion de chute pour un de ses petits qui croit en moi. Il faut faire attention de ne pas scandaliser les enfants par notre orgueil personnel. Ça peut être de différentes manières, mais la base et la source, c'est l'orgueil personnel. Par des paroles blessantes, par des comportements qui ne sont pas convenables. Vous savez, les enfants, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'ils n'expriment. Les enfants, ils détectent si quelqu'un a de l'amertume dans le cœur ou du mépris. Peut-être qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, mais ils le ressentent. Et il faut faire attention quand nous sommes en contact, toujours d'ailleurs, mais ici en particulier dans ce contexte, au contact des enfants ou des âmes simples, de ne pas les scandaliser. Et ces principes du royaume sont très, très clairs de la part du Seigneur. C'est grave. Malheur. Malheur à celui qui scandalise les petits. Verset 10, « Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits. » On a ça dans le cœur naturel. « Moi, je connais plus, moi, je suis plus élevé, moi, je connais plus le Seigneur, moi, je suis plus près du Seigneur. » Déjà, si on a ces pensées-là, c'est qu'on est déjà plus si près que ça. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis, dans les cieux, les anges, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi un ange ? Dans la parole de Dieu, on trouve les anges. Les anges sont des créatures de Dieu qui ont des tâches à accomplir pour la gloire de Dieu. Soit elles accomplissent des tâches, les anges accomplissent des tâches pour la gloire de Dieu, ou alors les anges communiquent des messages de la part de Dieu. Les anges aussi sont parfois au service ou protègent les hommes. On trouve des exemples dans la parole. Les anges qui sont allés secourir Lot pour le faire sortir de la ville qui va être détruite. Même dans la vie du Seigneur Jésus, comme homme, après 40 jours dans le désert, les anges sont venus pour le servir. Et puis il y a les anges qui annoncent des choses de la part de Dieu, comme l'ange qui parle à la Vierge Marie. Et on trouve d'autres exemples. Donc ça, ce sont les anges selon Dieu. Par contre, ici, on dirait que c'est différent. Certaines personnes pensent que pour chaque personne, pour chaque enfant, il y a un ange que Dieu a attribué comme un ange protecteur. Mais nous ne trouvons pas cette pensée nulle part dans la parole de Dieu. Nulle part il n'est dit que pour chaque personne, Dieu attribue un ange en particulier. Par contre, l'expression, le mot « ange » a une autre signification aussi au travers de la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Souvent, la Bible nous parle d'ange comme étant la représentation spirituelle de quelqu'un qui n'est pas présent ou dont le corps ne se trouve pas là. Je m'explique. On trouve dans l'Ancien Testament, par exemple, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est apparu. C'est comme la représentation de Dieu sans qu'il y ait un corps, mais de façon visible aux hommes. L'ange de l'Éternel est apparu à Josué, par exemple. Et donc, c'est la représentation, l'image de la personne sans qu'il y ait le corps physique. Et donc l'ange de l'Éternel, ça nous parle du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'avait pas encore pris une enveloppe corporelle. Mais il apparaît parfois comme sous la forme d'un ange pour parler à des hommes. C'est pareil dans le Nouveau Testament. Il y a cette expression qui revient dans Apocalypse 2 et 3, à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, Smyrne, Thyatire, etc. Il n'y a pas un ange qui est attribué à une assemblée. C'est-à-dire, quand il est dit à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, en d'autres mots, ça veut dire au représentant spirituel du corps de Christ qui se trouve localement à Éphèse. Donc c'est l'entité spirituelle. Mais ce n'est pas un corps physique. Et il y a aussi cette expression, on trouve aussi dans les actes. On trouve ce principe dans les actes, où par exemple l'apôtre Pierre est en prison, l'assemblée est en prière, et puis Dieu délivre miraculeusement Pierre de la prison, et il vient en personne, hein, frapper à la porte. Et puis il y a Rhodes qui vient pour ouvrir la porte, elle n'ouvre pas, elle entend la voix. Elle entend la voix de Pierre, elle reconnaît la voix de Pierre. Et puis elle va le dire aux autres, sans avoir ouvert la porte. Et elle dit aux autres, Pierre est là. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Ils disent, tu es folle. C'est son ange. Donc, autrement dit, c'est son esprit. Mais ce n'est pas son corps. Nous savons que son corps, il se trouve en prison. C'est ce qu'ils pensaient savoir. Donc, ils imaginent que l'esprit de Pierre se trouve là, mais que son corps n'y est pas. Ils disent, non, tu es folle, c'est son ange. C'est son ange. Et donc ici, sur base de ce principe, où l'ange, l'expression ange, signifie la représentation d'une personne sans qu'il y ait son corps, c'est-à-dire en gros son esprit, nous comprenons que les enfants qui meurent en bas âge, eh bien, ils ne sont pas perdus. Ils sont sauvés. Parce qu'il est dit ici, je vous dis, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père. Et pour tous ces enfants en bas âge, qui ont été victimes du péché des hommes jusqu'à mourir, Dieu, le Seigneur nous dit, leurs anges, ils voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leur esprit est auprès de Dieu. C'est magnifique de savoir ça. Alors, on va y revenir. C'est une pensée très profonde. Dieu se présente comme Père de ces âmes qui ont eu un séjour très court sur la terre et qui sont, dont l'âme est montée au ciel. Il se présente comme le Père. Père, alors que ces âmes ne sont pas, on va dire, ne sont pas nées de nouveau, elles n'ont pas eu le temps. Le Père, c'est aussi l'expression qui veut dire celui qui donne la vie. Alors, c'est quoi un enfant en bas âge ? Tout enfant est conçu et est enfanté dans le péché. Tout enfant est pécheur de nature. Mais Dieu n'est pas injuste et Dieu ne va pas condamner pour l'éternité des âmes qui n'ont pas encore, on va dire, l'âge de responsabilité. Alors, quel est l'âge de responsabilité ? Dieu seul le sait, car Dieu seul peut lire dans le cœur des enfants. Mais un petit enfant, même s'il est pécheur de nature, n'a pas encore choisi personnellement et consciemment de suivre un chemin de péché. Et Dieu fait grâce à ceux-là. C'est donc une catégorie d'âmes qui sont sauvées un peu particulière. Mais en même temps, vous voyez, ces enfants qui meurent sur la terre, leur place dans le ciel, elle est magnifique. Ils voient continuellement la face du Père céleste. Et quelle joie de savoir que les enfants de tous les temps, de tous les peuples, eh bien, s'ils meurent, ils sont sauvés. D'ailleurs, le Seigneur continue en disant, après le verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Et c'est magnifique de lire ça dans l'Évangile. Oui, nous parlons souvent de l'Évangile, et c'est une chose merveilleuse, mais l'Évangile a une étendue, une ampleur bien plus grande encore que ce que nous imaginons. Ici, il nous est dit que le Seigneur, Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour sauver ce qui était perdu. Et ses enfants étaient perdus de nature. Mais il est venu les sauver. Et donc, l'œuvre de salut que Christ a accomplie à la croix au travers des souffrances, cette rédemption qu'il a acquise, c'est pour ceux qui, comme nous, se sont convertis et ont accepté consciemment la grâce, parce que nous avons compris que nous étions pécheurs perdus à l'âge adulte. Et alors la grâce nous a été donnée abondamment. Mais Christ est mort aussi pour ses enfants, pour ses petits, dont le Père ne veut qu'aucun d'eux ne soit perdu. Et donc le Seigneur continue avec cette parabole, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'entre elles soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur la montagne pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ? Ici, contrairement à Luc 15, il ne s'agit pas du contexte des pêcheurs perdus. Il laisse les brebis sur la montagne, pas dans le désert. Il s'adresse à des croyants. Et quand on est croyant, on peut s'égarer. On peut faire fausse route. Un des exemples qui est donné là, le plus grand exemple qui est donné là, c'est de se croire supérieur aux autres, de laisser agir son orgueil personnel. C'est faire fausse route, ça. Si nous revenons à Jean chapitre 10, où le Seigneur se présente comme le bon berger, il est dit « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, elles me suivent. » Elles vont donc dans un droit chemin. Les brebis qui écoutent la voix du Seigneur, elles regardent le Seigneur, l'exemple du Seigneur, elles le suivent, elles l'imitent, elles vont là où le Seigneur va, il va devant. Mais lorsque nous nous égarons parfois dans la vie chrétienne, parce que nous avons des pensées trop élevées de nous-mêmes, alors il y a cet enseignement qui nous est donné, c'est lui qui vient nous rechercher. Ce n'est pas nous qui le suivons dans ce cas-là, c'est lui qui nous suit pour venir nous récupérer. Si nous suivons le Seigneur Jésus, nous sommes sur un chemin en sécurité spirituelle. Si c'est le Seigneur Jésus qui doit nous suivre pour nous récupérer, nous sommes dans un chemin de danger spirituel. Et ici, le Seigneur dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, c'est magnifique. Le Seigneur ne dit pas, tant pis pour lui. Il va la chercher. C'est la grâce. Non seulement le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, pour venir nous chercher dans notre état de misère, comme la brebis de Luc 15, pour aller la sauver de la perdition. Mais en plus, une fois que nous sommes sauvés, le Seigneur fait encore ce chemin pour venir nous récupérer lorsque nous nous égarons. Il va. Le Seigneur Jésus ne laisse jamais tomber, ne laisse jamais s'égarer les âmes comme si ce n'était pas important pour lui. Il va là et les dit pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée. Chacune, toutes sont précieuses pour le Seigneur, même si elle s'est égarée. Même si je m'égare parfois dans la vie chrétienne, je n'ai pas perdu la valeur que j'ai pour le cœur du Seigneur. Et il va tout mettre en œuvre pour me faire revenir à lui. Je n'ai pas perdu mon salut éternel, ce n'est pas possible. Mais j'ai perdu la joie et le bonheur de la relation d'être tout près de lui. Le bonheur d'être humble. Il y a du bonheur et de la joie à rester dans l'humilité, parce qu'alors on ressemble au Seigneur Jésus. Il n'y a pas de paix du cœur, ni de bonheur, ni de joie quand on est orgueilleux. Ce n'est pas possible. Parce que le cœur de l'homme ne peut pas se satisfaire sans le Seigneur Jésus. Et puis qu'est-ce qu'il dit là? En vérité, je vous dis, il y a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne sont pas égarés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie pour le Seigneur avec les brebis qui sont dociles. Pas du tout, au contraire. Le Seigneur prend plaisir. Il a beaucoup de joie d'avoir affaire à des brebis, à des âmes qui restent dans l'humilité, qui restent dans le droit chemin à sa suite. Ça, c'est beaucoup de joie et de paix pour le cœur du Seigneur. Mais dans ce contexte-ci, le Seigneur veut montrer, veut appuyer sur le fait qu'il a de la joie. Le Seigneur Jésus a de la joie dans le cœur lorsqu'il nous ramène à l'humilité qui convient. Lorsque le Seigneur nous a appris une leçon d'humilité, par exemple, ici, eh bien, si nous acceptons cette leçon et que nous nous laissons ramener, il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie dans le cœur du Seigneur lorsqu'une âme est restaurée. Peut-être que nous n'acceptons pas facilement la restauration en ce qui nous concerne, en tout cas celle des autres. Est-ce que nous avons de la joie quand une âme, c'est même un croyant, a fait un faux pas et qu'il est revenu au Seigneur? On devrait avoir beaucoup de joie. En tout cas, pour le cœur du Seigneur, il y a beaucoup de joie. Il l'exprime ici. Il y a beaucoup de joie dans le cœur du Seigneur lorsqu'une âme qui s'est égarée a été ramenée à lui. Dans Luc 15, il y a aussi beaucoup de joie pour une âme qui est sauvée, qui est arraché à la perdition pour être ajouté au troupeau. Donc, vous voyez, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur opère, produit de la joie. De la joie et de l'humilité, parce que tout est par grâce. La grâce, si nous comprenions toujours mieux le principe de la grâce, eh bien nous resterions humbles. Tout est par grâce. Si je suis disciple du Seigneur, c'est la grâce. C'est non seulement la grâce de Dieu qui m'a sauvé pour l'éternité, mais c'est aussi la grâce de Dieu qui m'enseigne dans mon chemin. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors ces petits-enfants, vous voyez, verset 14, « Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse. » Le cœur de Dieu est tout entier pour ses petits. Il ne veut qu'aucun d'entre eux ne périsse. Et puis un enfant, on va dire, considéré encore comme innocent par Dieu, même si, je le répète, il a été enfanté dans le péché, il a la nature pécheresse, mais tant qu'il n'a pas le discernement spirituel, tant qu'un enfant n'arrive pas au point où dans son cœur, il tourne le dos à Dieu pour s'éloigner de Dieu consciemment et dire « Je vais vivre ma vie », eh bien Dieu ne le considère pas comme coupable. Mais un jour, ça arrive dans le cœur, l'enfant grandit, et s'il continue à vivre sur cette terre, l'enfant grandit, et à un certain âge, à un certain moment, il y a un point déterminant dans la vie, où l'enfant devient conscient devant Dieu et devient responsable. Dieu seul peut lire et déterminer ce moment précis. Et alors là, il est nécessaire de se repentir, et nous en arrivons à Luc 15. De ce fils qui dit à son père, « Donne-moi ce qui me revient, moi je n'ai pas besoin de toi, je vais faire ma vie. » Tourne le dos à son père, tourne le dos à Dieu, et on part vivre dans le monde, dans la débauche, dans le péché. On vit pour soi-même, on dépense tout. Jusqu'au jour où, on va le lire dans Luc 15, il est dit là, le père reste attentif. Il scrute le chemin pour voir si son fils revient. Et puis il revient. Pourquoi ? Il s'est repenti. Il s'est repenti dans son cœur. Il s'est converti. Il s'est tourné. Il a fait demi-tour. Il est venu vers son père. Le père lui pardonne tout. Non seulement il lui pardonne tout, il lui donne tout. Et il y a de la joie. « Car mon fils, voici, était mort. » Verset 24, « Il est revenu à la vie. » Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était responsable devant Dieu. Il avait choisi le mauvais chemin. Mais il s'est repenti. Il s'est converti. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Il y a de la joie dans le ciel. Et puis, il y a ce frère aîné qui n'est pas content. Lui s'estime comme étant propre juste. Il dit, mais moi j'ai fait tout ce que tu as demandé, tu n'as jamais donné ce que tu as donné à celui qui s'est repenti. C'est ça que le Seigneur dit dans la parabole de la brebis perdue. Il y aura de la joie au ciel, verset 7, pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. 99 justes qui pensent ne pas avoir besoin de se repentir. Il n'y a pas de joie parce que c'est de l'orgueil. Et le Seigneur ne peut pas s'associer à cet état d'esprit. À celui qui se repent, le Seigneur s'associe. Et donc, si nous retournons à ces pensées de Matthieu 18, où nous comprenons que le Seigneur Jésus est venu pour sauver ses petits-enfants, pour qu'ils voient, pour que leur ange, pour que leur esprit voit la face du Père continuellement dans le ciel. Ça fait partie de l'Évangile. C'est merveilleux de savoir que tous ces enfants, ça nous révèle quelque chose de la grâce de Dieu supplémentaire. C'est que tous ces enfants, on en trouve en Exode déjà, En Exode 6, Pharaon dit de faire périr tous les garçons qui naissent parmi les Hébreux. Il faut les jeter dans le fleuve. On peut difficilement imaginer l'horreur de la scène. Jeter les enfants, les nouveau-nés, dans le fleuve. Eh bien, tous ceux qui sont morts, ils n'ont pas perdu. Le Seigneur est mort sur la croix pour eux. Tous ces enfants-là, hébreux, ne sont pas perdus. Ils sont dans la félicité. Ils sont là, dans un lieu qui est de loin meilleur que cette scène du monde où on les a fait souffrir. Puis, pareil avec Hérode. Voilà le Seigneur Jésus qui vient au monde. Hérode commande que tous les garçons de 2 ans ou moins soient mis à mort. Quelle cruauté! Quelle cruauté de la part des hommes! Quel scandale, même au point de vue humain! Quel scandale! Ils ne sont pas perdus. Ils sont au ciel. Leur esprit, leur ange, voit continuellement la face de Dieu, la face du Père dans les cieux. Il y en a d'autres, des enfants. Il y a David. Parfois, les enfants subissent les conséquences du péché de leurs parents. David a fait tuer Uri parce qu'il avait conçu un enfant avec la femme d'Uri. Et il nous est dit, à cause de cela, Dieu frappa l'enfant par une maladie à la mort. Et cet enfant qui est né de la femme d'Uri, il a été enfanté dans le péché. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il est mort. Ce sont des choses mystérieuses. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Dans un cas, il le permet, dans l'autre cas, pas. La sagesse de Dieu est toute souveraine. Mais il n'est pas perdu. Cet enfant est dans la félicité. Et puis, prenons encore un autre exemple. Il y a ces femmes qui viennent se disputer un bébé devant Salomon. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui, lorsqu'elle dormait, s'est couchée sur son bébé. Elle l'a étouffé, il est mort. Un accident. Il n'est pas perdu. Cet enfant, l'âme, l'esprit de cet enfant, il est là dans la gloire. Il y a d'autres exemples encore. Il y a des choses abominables qui se passent dans la vie. Les enfants sont souvent les victimes des conflits entre adultes, conflits entre parents, des guerres, ou même de l'idolâtrie. L'idolâtrie va jusqu'à offrir les enfants au dieu Moloch. La parole en parle, c'est une abomination. Dieu avait prévenu son peuple en disant « Vous n'offrirez pas vos enfants par sacrifice de feu à Moloch. » Comment est-il possible que des hommes, des pères, des mères, des parents, en arrivent à immoler leur enfant en bas âge par feu, offrande à des idoles? Ils sont morts, ils ne sont pas perdus. Et c'est un aspect merveilleux de la grâce de Dieu. Dieu n'est pas injuste, il ne va pas punir ceux qui ne sont pas responsables ou qui ne sont pas encore responsables, même s'ils ont le péché en eux. Et ces enfants ne sont pas responsables et pas coupables devant Dieu. Et nous lirons un verset dans Matthieu, chapitre 21, verset 16. Mais Jésus leur dit, sans doute, n'avez-vous jamais lu par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange. Quelle grâce! La louange, elle est exprimée par ces enfants qui ne savent même pas parler. Et par l'esprit de ces enfants qui considèrent et qui voient continuellement la face du Père dans le ciel. Dieu reçoit de la gloire, tellement sa grâce est infinie. Et ces enseignements de la parole nous montrent que nous montrent tout l'amour de Dieu pour sa créature. Il est le Père. Il est le Père de toute vie. Et la vie que Dieu donne, elle est précieuse. Elle est très précieuse. Il ne faudrait jamais mépriser qui que ce soit, même la vie d'un petit. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, au point qu'il recueille. Il recueille les âmes, l'esprit de ses enfants qui meurent, tellement c'est précieux pour lui. Et il les place où ? Devant sa face. C'est une place privilégiée de se trouver devant la face de Dieu. Dieu n'a pas dit, nous allons les mettre à part. En fin de compte, ils sont plus petits. C'est important. Une place privilégiée au premier rang, on pourrait dire. Il les met là. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait dans le cœur du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il dit à Pierre, m'aimes-tu ? Oui. Tu sais que je t'aime. Par quoi est-ce qu'il commence ? Paie mes agneaux. Il ne dit pas d'abord, occupe-toi de ceux qui sont déjà très avancés dans la foi. D'abord, il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, les petits. Parle-leur de ce qui me concerne. Le Seigneur dit aussi, je te loue. Je te loue, ô Père, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les aies révélées aux petits-enfants. Vous voyez quelle dimension de la grâce et de l'amour de Dieu pour les âmes qui sont simples, qui sont fraîches, pour les enfants. Et aussi, ça nous montre que dans sa grâce, il n'est pas injuste, il ne punit pas ceux qui ne peuvent pas être tenus pour coupables.